Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome in Comme d'Archi podcast season 3.
Saison 3 dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant.
Now.
Lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Nicolas Bouisson et Hugo Crespi. Bonjour Nicolas et Hugo.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de Foral Studio, agence d'architecture, d'architecture d'intérieur et d'urbanisme, lauréate des albums des jeunes architectes et paysagistes 2020, donc relativement récent. Vous revendiquez une architecture frugale et bioclimatique en mettant la réponse à la crise climatique au cœur de vos projets, quelle qu'en soit l'échelle. On va commencer par le début. Quels sont vos parcours respectifs? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Quelles ont été vos études? Alors, on commence par Hugo ou Nicolas?
Bah écoutez, je vais commencer. Donc, Hugo, bonjour.
Bonjour.
Oui, alors paradoxalement, en fait, puisque beaucoup des projets de l'agence sont situés sur des bassins versants divers et variés, et pas que celui de la Seine, eh ben, mon enfance est très parisienne. Très parisiano-centrée, rive gauche, rive droite, etc. À l'exception, en revanche, de deux années en Allemagne, qui était un petit peu singulière, puisque du coup, c'était une expérience d'habiter un peu différente dans un logement de fonction, dans un institut culturel français, dans lequel la bibliothèque, qui est un établissement recevant du public, m'accueillait moi la nuit pendant que j'allais lire des BD, ou inversement, on avait des visiteurs impromptus dans la cuisine. Enfin voilà, donc une espèce d'hybridité en tout cas de l'habitat qui m'a, je pense, plutôt bien marqué sur ces questions de lieux.
Et donc c'est Paris, c'était une évidence, c'était...
Paris s'est révélé être une évidence pratique pour des questions de cursus. Puisque je suis donc architecte et urbaniste et j'ai fait vraiment l'intégralité de mon parcours en géographie et en architecture.
Dans quelle structure ?
Donc l'école d'architecture à Malaquais avec Nicolas et l'urbanisme à l'université de Paris 1, à la Sorbonne. Et donc du coup, effectivement, quand on fait un double diplôme avec tous les UE qu'il faut tous passer un peu en simultané, ben, on n'a pas trop l'occasion de partir en Erasmus ou autre quoi. Donc effectivement, ça a été assez parisien, à l'exception de ces deux années en Allemagne.
D'accord.
Mais, voilà.
Mais votre envie d'archi, c'est...
Alors cette envie d'archi, elle est à la croisée de plusieurs choses. Comment dire ? Elle était... on va peut-être parler de... Je vais peut-être parler d'une anecdote. Mais depuis que je suis tout petit, je dessine donc une... ça paraît vraiment ridicule, hein, mais c'est une forme donc de plan de ville imaginaire, d'une capitale, d'une île imaginaire qui s'appelle Mondiennoir. Et donc il y a plusieurs dizaines de feuilles A4 que j'accroche au mur, que je change périodiquement en fonction des humeurs du moment, etc. Et donc déjà une volonté qui est apparue très jeune quand j'étais en CE2, de dessiner l'espace, de dessiner une topographie, de dessiner un paysage. Alors, c'est pas la même chose d'ailleurs sur Nicolas, enfin, il en parlera tout à l'heure, c'est pas les mêmes échelles, etc. Mais c'était voilà, déjà une première approche sur cette envie d'archi, mais qui n'était pas forcément nommée comme telle dès le départ, puisque le mot architecture, dans nos parcours respectifs, il arrivait très tard. Moi, j'étais dans un lycée dans lequel, quand vous disiez que vous alliez faire autre chose qu'une classe préparatoire, on tolérait médecine ou droit, et c'était tout. Donc l'architecture n'était même pas en fait un sujet. Et donc, pour tout vous dire, je voulais faire du géomarketing, parce que c'était le seul truc que m'avait donné le NICEP à cette époque-là. Mais je savais que ça avait un rapport avec l'espace, je savais que ça avait un rapport avec le territoire, avec ses différentes échelles. Et c'est donc après deux années d'études littéraires, pour le coup, que j'ai compris qu'il existait d'autres choses, qu'on pouvait travailler l'espace autrement que dans une perspective publicitaire sur ces sujets. Et donc, voilà, j'ai postulé aux écoles d'architecture, où j'étais pris, du coup, à l'école d'archi de Malaquais. Donc, le terme architecture est arrivé assez tard dans mon parcours, et qui, du coup, était un parcours qui était plutôt empreint de sciences sociales. Et donc, après, tout le reste de mes études d'archi a essayé de renouer les deux et de fabriquer une méthodologie de travail qui était un peu différente de celle que j'avais apprise à l'université et de celle que j'apprenais aussi en école d'archi, quoi.
Alors, Nicolas.
Bonjour.
Bonjour.
Moi, j'ai également grandi à Paris, en tout cas jusqu'à mes 8 ans, dans un cadre familial autour de l'artisanat, de l'art. Dans un contexte quand même particulier, par exemple, je suis pas allé en maternelle, les premières années en tout cas, j'accompagnais ma mère, qui était militante à TD Quart Monde, qui animait des ateliers de rue de peinture à Ménilmontant, pour les enfants pauvres et déscolarisés. Et donc, j'ai passé une partie de ma tendre enfance dans la rue, à peindre avec les enfants des quartiers. Et c'est vrai que c'est une enfance assez dépouillée, avec peu de moyens à la maison. Pas de télé, pas de jeux vidéo, beaucoup de lectures, et petit à petit de la réalisation d'objets, beaucoup de production manuelle par différents biais. Mon père est une sorte de transfuge social. Il a quitté sa famille du sud de la France à 14 ans et il est monté à Paris à 17-18 ans pour apprendre l'ébénisterie, aller écouter en éditeur libre Deleuze à Vincennes. Et quand je nais, il monte une coopérative d'ébénisterie avec d'autres artisans. Et donc, c'est aussi des premiers pas dans la poussière, du bois, les odeurs de colle, de vernis. Peu de moyens, enfin peu de jouets, peu de choses qu'un enfant peut-être plus traditionnel aurait à sa portée, mais donc d'autres matériaux avec lesquels du coup je me suis emparé pendant mes vacances, pendant mon temps libre. Je fais des objets. L'été, je vais chez mon grand-père qui est guitariste classique, compositeur et artiste, sculpteur, peintre, et c'est quelqu'un qui crée tout le temps. Et donc voilà, il nous entraîne sur là-dedans. Et on a, nous, quand je dis nous, j'ai un frère à ce moment-là aussi qui participe à cette stimulation
créative,
d'objets, de petites sculptures. Donc c'est plutôt un apprentissage autour de la production d'objets. Puis je continue avec du modélisme, de l'aéromodélisme. J'imagine des planeurs que je dessine, que je fais en balsa, que j'entoile de papier japonais. Enfin voilà, des choses qui, après, quand... Des décennies plus tard, je dirais, dans l'architecture, que je retrouve pour les maquettes, pour en tout cas ce plaisir des mécanismes, j'ai beaucoup de bonheur à passer du temps sur la fabrication d'objets, de la minutie. C'est vrai que cette enfance, je pense, est un peu solitaire. Enfin, en tout cas, je suis quelqu'un de plutôt réservé, soit dans le monde des livres, soit dans les objets que je fabrique et que je retrouve du coup vraiment beaucoup plus tard.
Vous avez cette générosité de témoigner sur ce parcours initiatique, en fait, ce chemin initiatique nourri par la création. En tout cas, moi, ça me parle. Alors, vos études après, vous rentrez dans le concret ?
Alors, je rentre dans le concret. Au moment du bac, quand il faut prendre des décisions, j'hésite beaucoup. À l'époque, je veux faire du design, donc des objets. La vie de tous les jours, du quotidien. Mais je décide de faire un double cursus, ingénieur design. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'envisage à ce moment-là. Et donc, je fais une école d'ingénieur, dans laquelle je ne me plais pas. Parce que 5 ans, c'est long. Prépa, école d'ingénieur. Et en fait, je rêve d'autre chose. Entre-temps, je trouve d'autres échappatoires. Je travaille beaucoup les étés avec ma marraine qui est céramiste, que j'assiste, qui à l'époque travaille pour ou avec Gérard Garouste, Miguel Barceló, ou dans le design avec Sotsas. Et donc voilà, pour moi, les meilleurs moments d'école, d'ingénieur, c'est les moments où je n'y suis pas et où je suis dans l'atelier de céramiste, à travailler la terre, ou à être assistant d'une autre artiste, Susanna Fritscher, qui manipule d'immenses plexiglas qu'elle peint au pistolet, par accumulation de couches blanches quasi invisibles et qui forment des dégradés dans l'espace. Voilà, donc j'ai comme ça des manières de survivre à un environnement qui, oui, sinon, me branche pas plus que ça. Et j'en profite aussi pour partir à l'étranger. Je finis mes études en partie au Japon, puis en Chine. Et c'est des moments pour moi qui sont vraiment un peu fondateurs, quoi. Et c'est vrai que pour moi, c'est un voyage aussi un peu initiatique, où je reste beaucoup plus longtemps que prévu, je retourne finalement pas en France, je m'immerge complètement, c'est-à-dire que je me retrouve qu'avec des Chinois ou d'autres Asiatiques qui sont là pour apprendre le chinois. Et donc, je vis en chinois, je rêve en chinois, j'apprends beaucoup, je passe des heures à apprendre les idéogrammes, à les calligraphier, etc. Donc voilà, il y a cette... aussi cette observation de la ville qui se transforme et qui du coup moi me permet de faire un espèce de pas de côté, de découvrir une autre manière de regarder la ville, puisque Paris est quand même relativement figé, en tout cas je plus jeune, c'est l'impression que j'ai, je pense qu'elle est toujours assez valable, on est comme dans une ville musée assez...
Oui, mais disons que il faut pas muséifier toutes les villes, mais peut-être que avec celle-ci ça fonctionne puisqu'elle est toujours là.
Oui, tout à fait. Non, c'est plus le décalage du regard qui est intéressant, plus qu'effectivement après, parce que ce que j'ai vu à Pékin, à l'époque, me traumatise aussi. Des quartiers qui sont rasés vraiment du jour au lendemain.
Avec les fameuses maisons clous.
Les fameuses maisons clous, et les routongs dans lesquels je vais déjeuner tous les midis, et la semaine d'après ont totalement disparu, les familles ont disparu. Et c'est vrai que c'est quand même c'est une violence. Je faisais mon projet de fin d'études en chinois. Au début, évidemment, j'y comprenais rien. Tout ça était très obscur. Et finalement, je me dis, quitte à être là, le projet en soi n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'il y a trop de barrières. L'échange est mal ficelé, etc. Par contre, je suis là, il y a la langue qui est passionnante. Il y a ce pays qui est extraordinaire. Et donc, voilà, je reste pour la langue, pour le pays. Je pense prendre un cours d'initiation en chinois. En fait, un cours intensif avec que des élèves qui viennent uniquement pour ça. Et je me laisse entraîner dans ce bain chinois. Et là, je n'ai toujours pas entendu parler d'architecture. Enfin, c'est un mot qui, comme chez Hugo, n'existe pas à la maison. Et il me faudra encore du temps pour réussir à mûrir ce fameux désir qui, comme j'ai dit, il y a déjà beaucoup de celle de présence des objets. Je dessine, j'écris. Enfin voilà, il y a une production, mais qui ne se traduit pas encore en désir d'architecture.
Et donc, c'est venu rapidement à la fin des études d'ingénieur.
Je voulais absolument faire l'ENSI les ateliers que j'ai tenté entre le Japon et la Chine. Et lors du processus de sélection, en deuxième phase d'admissibilité, je fais ce fameux jury qui est un peu particulier dans cette école. Et en fin de compte, je me retrouve devant un jury qui est un perplexe face au projet que je présente, qui est un texte, en fait, un texte tout simple, avec quelques dessins du Japon, et qui se conclut, je pense maintenant, un peu naïvement, mais par le superflu des objets. Ce qui est particulier quand on veut faire une école de design. Et ils me disent, franchement, on est perplexe, mais c'est intéressant, mais on sent que vous êtes plutôt sur une approche architecturale. Et c'est un peu la première fois qu'on prononce ce mot devant moi, et je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas les écoles d'architecture, je n'en ai jamais entendu parler. Je ne sais pas qu'est-ce qu'est ce métier, etc. Et donc ça met comme ça quelques années à mûrir ensuite. Ensuite, il y a la Chine. Je reviens de Chine, je suis comme un peu un étranger en France parce que j'ai l'impression d'être un peu déconnecté. Et donc, je travaille en tant qu'ingénieur, direction de la recherche de Gaz de France, là où on réfléchit aux futures énergies. Donc, j'ai l'impression d'y voir un intérêt, mais je suis plutôt comme un étranger dans cet endroit. Et j'ai l'impression d'avoir encore mon esprit un peu déconnecté du corps qui gravite dans cet environnement-là, même si je joue le jeu.
Vous êtes dans une posture statutaire, mais le cœur n'y est pas.
Le cœur n'y est pas, mais je joue plutôt bien le jeu. J'apprends beaucoup, j'observe, et petit à petit, je sais que je vais faire autre chose, que je vais partir. Et à un moment donné, je ne sais pas, vient cette ce désir d'architecture dans le RER qui m'amène...
Dans le RER
Je ne sais pas, oui, parce que je regarde passer les paysages urbains qui défilent, qui se transforment. C'est le RER vers Saint-Denis, vers la plaine du Stade de France. Enfin, tout est un peu en ébullition. Je ne sais pas. Et petit à petit, vient ce terme, il arrive, quoi. Mais... voilà, il me faut du temps. J'ai été assez lent et j'ai quasiment eu besoin de 25 ans pour formuler ça. Et donc, je me lance finalement en parallèle de mon métier à préparer une entrée en école d'archi. Je fais ça totalement, de manière totalement discrète, secrète. Personne au courant autour de moi, ni mes amis, ni ma famille. Et je veux absolument faire Malaquais. J'ai projeté comme ça un rêve. et donc, je suis admis et j'annonce un jour à tout le monde, à mes parents, à mes amis, voilà, demain, je démissionne et après-demain, je rentre en école d'architecture à 26 ans. Et donc, c'est comme ça que je rentre en école et que je rencontre Hugo très rapidement.
Vous êtes devenu camarade de charrette.
Oui, on était un groupe assez nombreux, en fait, à Malaquais, assez hétérogène. On avait des âges différents, des genres différents, des sexualités différentes, des nationalités différentes. On est resté assez proches pendant ces 5-6 années et on continue d'ailleurs toujours de se voir. Toute une bande, mais qui était aussi déjà la croisée de toutes ces manières de représenter et de concevoir l'espace différente. Quoi.
Alors, quand et comment vous avez commencé votre activité en tant qu'architecte ?
Il y a ces rencontres à l'école. Et donc, avec Hugo et Julien Pilon, on travaille souvent ensemble. On fait du projet à l'école ensemble, on part en voyage ensemble. Enfin, voilà, il y a tout un apprentissage en commun de l'architecture. On se crée nos références ensemble. On prend beaucoup de plaisir, je pense, à partager. Peut-être nos actes fondateurs, c'est nos diplômes. Moi, je le fais avec Julien Pilon, donc, et Sophie Boëlly. On le fait à trois, un peu contre l'institution de l'école, pour qui le diplôme doit être personnel.
Hors département.
Ça a été compliqué, une forme de guérilla administrative. Mais on tenait à ça. On tenait à ça parce que, quelque part, on nous l'a reproché, on voulait déjà faire agence. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a formulé. Mais voilà, on fait ce diplôme. Nous, alors, Hugo a une année d'écart, puisque comme il fait Urba en parallèle, il intercale les années. Mais nous, avec Julien et Sophie, on fait ce diplôme en Ile-de-France, à Fos, dans une vallée qui, historiquement, a connu de la terre cuite, mais qui est complètement délaissée. Et on décide de réactiver une filière de terre crue. Qui redonnerait corps à cette vallée un peu que nous on avait appelé déterritorialisée, c'est-à-dire avec une influence de Roissy, Charles de Gaulle, un émiettement du tissu, etc. Et donc voilà, on se dit ça peut être un lieu de production de terre, pour faire du pisé, pour construire en pisé sur site, et comme ça, au-delà d'un projet de construction et de réurbanisation, qui est aussi un projet de qui soit productif et qui parle de la ressource du territoire. Et voilà, ça c'est un peu... Et Hugo, donc, il faut qu'il en parle, mais il a également une démarche similaire dans les Pyrénées.
Oui, c'était mais sur une autre matière première qui était plutôt le bois, pour le coup. On a travaillé avec Romain Storder, Pierre Gourvennec et Julien Sénet, je crois que j'ai cité tout le monde, sur la question du développement de la filière bois donc, dans les vallées béarnaises. Filière bois qui sont très difficiles d'accès, qu'il faut débarder par câble et qui trouvent très peu de débouchés également. Alors déjà, il n'y a plus de savoir-faire pour pouvoir travailler ces forêts-là, puisqu'ils sont italiens maintenant. Et très peu de débouchés, puisque en général, ça finit en pelé chez Total pour l'usine à granulés. Et donc, c'est fort de ce constat qu'on décide de travailler sur cette forêt béarnaise et de la travailler avec aussi, comme Nicolas, la question du développement territorial de ces petites communes séparées par une infrastructure ferroviaire qui les sépare toutes et qui fait que la cohésion historique entre elles ne fonctionne plus. Et on essaye de réactiver par une stratégie territoriale à base de projets très locaux réalisés avec ce matériau qu'on essaye de réactiver sur le territoire. Donc, du coup, un territoire cohérent. Et alors, c'est vrai que c'était un peu, on commençait à faire agence un peu en amont, parce qu'on était aussi allé chercher les futurs utilisateurs. Enfin, nous, on travaillait avec les élus déjà, qu'on avait
convaincu
voilà, de nous suivre, de venir à Paris. Ils nous avaient accueillis chez eux, on travaillait un peu avec eux. Et on était déjà dans une approche qui était pas celle d'un diplôme dans sa chambre ou à la mezzanine de Malaquais, mais déjà les mains dans le territoire. Voilà. Et c'était pour nous quelque chose d'assez important. Et donc, c'est deux diplômes sur des thématiques en fait assez semblables. Quoi.
Mmh. Et alors ?
Et après ?
Gratter en agence ou pas ?
Alors, pas vraiment. Ça dépend un peu de... Ouais. On était trois. C'est vrai que moi, en tout cas, personnel, quand je rêve un peu d'architecture, je rêve déjà de monter une agence, d'être indépendant, de connaître la liberté de décision, de pouvoir prendre la direction qu'on veut. C'est ça qui me fait aussi rêver quand on parle d'architecture, au-delà du dessin, de l'objet, etc. C'est aussi ce qu'on peut monter comme équipe. Voilà. Donc il y a ce désir très fort. Et donc, avec Hugo et Julien, on décide de monter l'agence. Voilà, tout simplement, on se dit, on y va, quoi. On se lance. Alors, on a une HMO à faire. On fait notre HMO dans des contextes assez particuliers, mais qui nous permettent, bon, quand même, de faire quelques armes. Mais voilà, l'agence est lancée à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on commence à travailler sur des petits projets en parallèle. Et dès qu'on est inscrit à l'ordre, on se lance, quoi.
Ça s'appelle déjà Foral Studio ?
Il y a un petit temps de gestation.
Il y a un petit temps de gestation. Il y a un très, très gros fichier Excel dans lequel on débattait de noms. voilà, mais non.
Alors,
mais c'est...
pourquoi Foral ?
Pourquoi Foral ? Parce que c'est... Il y a à la fois la rigueur du signe mathématique pour tout type. Donc, c'est le A inversé qui est d'ailleurs celui sur le site. Pour tout type de projet, pour tout type... voilà. Et en même temps, on trouvait ça assez généreux puisque... Il n'indique pas ce qui vient après ce pour-tout. Oui. Donc ça peut être pour tout type d'usage, pour tout type de site, etc. Et ça, pour nous, c'est une liberté qui est très importante, puisqu'en fait, on travaille sur une méthode d'immersion dans un site qu'on a développée justement dans nos différents diplômes et qu'on applique de manière assez méthodique pour nous permettre justement d'intégrer les questions d'architecture et d'environnement qui, pour nous, en fait, on ne l'a pas dit parce que c'est presque une évidence, mais sont intrinsèquement liées dès le départ. C'est-à-dire qu'on ne saupoudre pas d'un peu d'environnement sur des projets qu'on ferait pour répondre à quelque chose, mais on essaye d'intégrer d'ores et déjà à travers la question de la ressource, celle qu'on met en œuvre sur le bâtiment ou celle qu'on essaye d'économiser dans sa vie, donc cette question d'une architecture environnementale.
Oui, la question de la ressource, ça devrait être... un élément clé fondateur du projet.
Mmh. En tout cas, ça le devient. Mmh. Pour nous, c'est vrai que c'est une donnée d'entrée clé dans nos diplômes, par exemple.
Mmh.
On en a parlé.
Cette question de la ressource locale, et on insiste vraiment sur le terme de local, parce que c'est cette question d'un territoire qui nous est cher aussi, on est en mesure de la mettre en œuvre à partir du moment où on a une certaine échelle de projet aussi. Et quand on commence une jeune agence au sortir de l'école et qu'on n'a pas les références d'une grosse agence... Alors moi, contrairement à Nicolas, j'ai travaillé, j'ai fait ma HMO pendant la première année. Alors moi, j'allais travailler à Foral les week-ends pour travailler sur les différents sujets. Mais donc, malgré tout, je ne suis pas parti avec des références d'agence. Donc on avait un corpus qui était nos deux diplômes et puis des amis, beaucoup d'amis et de la famille. Et donc on a fait comme beaucoup d'agences parisiennes, des appartements, des boutiques. Et alors déjà sur ces projets-là, on met à notre échelle la question d'une architecture intérieure éco-responsable. Pour nous, c'est notre manière à cette échelle-là de le travailler. Et puis en fait, on tente un premier appel d'offres, la première année d'ailleurs, qu'on remporte tout de suite. Alors après, on n'a pas eu les mêmes ratios par la suite, on vous rassure. mais bon, chance du débutant. Et c'est un projet justement qui n'est pas à Paris.
Où on... Alors attendez, on va y revenir au projet.
pardon.
C'est la passion qui vous emmène, mais c'est bien. Vous parliez de Julien tout à l'heure dans les associés ?
Oui.
Alors, il est parti
Effectivement, il est parti en 2020.
Ouais.
Il continue son activité en indépendant.
D'accord.
Donc voilà, le petit groupe, c'est un peu...
Oui, vous vous êtes cherché et finalement, les choses se définissent. Très bien. Alors, aujourd'hui, vous avez des projets. On va revenir sur les projets. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école? Ça fait combien de temps?
7 ans.
L'agence a 7 ans.
Ouais. L'agence a 7 ans.
Ouais. L'âge de raison?
L'âge de raison, bah sur le oui, on est. Enfin, déjà, on va commencer par un oui. Sur l'outil qu'on a fabriqué, cette agence, cette équipe, ces méthodes de travail, cette diversité de projets, puisqu'on fait du logement, des équipements, on travaille sur. Je parlais de trois bassins versants, parce que l'agence s'est implantée aussi, du coup, sur la Loire. L'agence parisienne, et puis pour accompagner aussi les mouvements de l'équipe donc dans les Bauges. Donc on travaille sur des territoires aussi qui nous permettent en fait de travailler vraiment plus finement ces questions de ressources, d'ancrage territorial. Et donc pour ça, oui, on n'imaginait pas en fait au moment où on faisait notre diplôme que 7 ans plus tard, on aurait créé l'outil économique d'une agence qui nous permet en fait de mettre en œuvre ces choses-là.
Ouais, j'ajouterais aussi que quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est d'avoir réussi à aligner des convictions personnelles avec une production professionnelle. Et ça, c'est un peu ce que je racontais plus tôt, mais je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment très longtemps cherché, de savoir comment on met toute cette énergie du quotidien, d'un travail qui quand même demande beaucoup d'investissement et d'engagement au service de causes, qu'elles soient écologiques ou sociales, qui nous sont chères et qui fait qu'effectivement, je pense qu'on est content d'avoir cet outil, de se lever le matin. Il y a vraiment cette envie-là qui est toujours intacte parce que ça fait partie d'une forme de militantisme qui nous engage pleinement dans ce qu'on fait. Et c'est vrai que Hugo parle de cette idée d'outil. Il y a aussi la question d'un outil très mobile ou très flexible parce qu'on parle beaucoup, on débat beaucoup, on avance dans notre réflexion et on met à jour comme ça notre logiciel très régulièrement. Par exemple, le texte de l'agence, ce n'est pas un texte figé qui a été écrit il y a 5 ans et qu'on oublie d'aller dépoussiérer de temps en temps. Non, c'est quelque chose, je ne sais pas, peut-être que tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, ça dépend un petit peu de notre activité. Voilà. On le met à jour, on change des choses, on en ajoute. Et c'est comme ça sur notre pratique, c'est quelque chose de vivant, c'est un outil qui est vivant. Et je pense qu'on dès qu'on sent qu'il y a quelque chose avec lequel on n'arrive plus à faire, et ben on modifie, on ajoute, on change les méthodes, et il y a ce plaisir d'avoir quelque chose en mouvement qui épouse nos convictions personnelles.
Je dis outil, mais c'est vrai que c'est un outil très organique, très humain. Enfin, on travaille à plusieurs, on n'est pas tout seul. On travaille aussi avec des compétences toutes différentes, parce que, donc, archi-urba, archi-ingé. À l'agence, on a aussi d'autres urbanistes, des architectes d'intérieur.
Oui, alors vous êtes combien à l'agence?
On est entre 5 et 7 en général.
On est sur
cette vitesse de croisière, ça dépend des périodes. Et donc du coup, en fait, on travaille aussi avec des compétences autres que les nôtres au sein même de l'agence. Et du coup, ça crée du débat, ça crée des échanges qui sont assez riches. Avant même d'aller se confronter à la maîtrise d'ouvrage et aux autres bureaux d'études techniques, on a déjà cette...
Oui, si vous vous confortez ou solidifiez, vous êtes en confiance ou en phase par rapport à vos convictions et vos objectifs. Et du coup, ça permet d'être plus fort en face des maîtrises d'ouvrage qui... sont peut-être pas encore complètement calés avec...
Après, ça nous a mis du temps.
Ouais. J'imagine qu'il faut aussi renoncer pas mal.
Renoncer,
jamais.
C'est pas vraiment le bon terme.
On n'a pas de projet qui n'aurait pas cette démarche-là. Il y a des questions de curseur, en revanche, où bien sûr, on n'a pas forcément toujours les moyens d'aller jusqu'au bout de ce qu'on voudrait faire. Mais comme on lit dès le départ, dès l'implantation du bâtiment, les matériaux qu'on veut utiliser, cette question de l'écologie, en fait, on n'a pas de projet qui ne le serait pas et on n'a pas le sentiment d'avoir fait des concessions éthiques aujourd'hui sur les projets. Après, dans certains des projets, oui, il y a bien sûr des choses qu'on regrette, qu'on n'a pas pu faire, qu'on a testé, qu'on a raté.
Mais voilà. C'est pareil.
On nous dit souvent, vous faites de l'éco-construction, vous êtes dans une niche aujourd'hui dont tout le monde parle, ça doit être porteur, vous devez avoir des tas de projets, etc. Et en fait, non, quoi. C'est pas si simple que ça. On fait beaucoup de pédagogie au quotidien. On parle beaucoup. On essaye de convaincre les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics, privés ou des particuliers. Ça prend beaucoup de temps. Et on se confronte au réel, quasiment au quotidien. Et donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose, voilà, dans la question de l'accomplissement. Il y a ce réel qui est quand même assez dur. On a vécu là des crises pas évidentes, le Covid. Alors les municipales pour nous,
c'est très compliqué.
On a perdu 3 ou 4 des plus gros projets de l'agence lors des dernières municipales. On découvrait cet événement et
ce temps.
Et c'est vrai que ça a été un peu un choc. Quand on met autant d'énergie, d'envie dans les projets qu'ils finissent par rester des projets de papier. Alors aujourd'hui, il y a la hausse du coût des matériaux qui porte aussi un coût sérieux à la viabilité de certains projets. Parce que quand un projet prend tout d'un coup 30%, voire 50%, un maître d'ouvrage, évidemment, ne peut pas forcément suivre. Donc, ça nécessite de faire des arbitrages. Donc, voilà. Et de notre point de vue, il y a encore beaucoup de greenwashing. Clairement, à toutes les strates de la société. Mais c'est vrai qu'on sent, du coup, c'est pour ça qu'on nous dit que ça doit être porteur. Et à la fois, quand on est face à l'action... c'est plus compliqué. Il y a moins de monde en tout cas. Ça demande beaucoup d'efforts. Donc c'est vrai que voilà, il y a un peu cette contradiction.
On le ressent beaucoup aujourd'hui où la durabilité, l'écologie devient un outil de communication formidable. Mais comment aller vérifier que derrière c'est tangible ? C'est pas parce qu'on l'a dit que ça l'est. Ça c'est un peu le défaut aujourd'hui. On est en surcommunication. On croit qu'on a dit la formule et du coup c'est bon. Non en fait.
Et puis c'est considéré aussi comme une plus-value, quelque chose qu'on peut aussi, du coup, qui coûte plus cher, mais qu'on peut aussi facilement retirer en temps de crise. Et donc, on fait
le luxe.
Voilà, exactement. Oui. Et nous, on milite justement un peu contre cette
alors
question.
Alors que c'est l'inverse, parce qu'on est dans l'essentiel, dans l'essence, et que du coup, l'essence, elle pourra se projeter loin.
L'essence est l'essence, parce que nous, c'est vraiment très important aussi, c'est que on parle à des maîtrises d'ouvrage qui sont pas forcément convaincus, et une des manières de les convaincre, pour nous, c'est aussi de parler de cette question de l'intégration du projet dans une culture constructive, des artisans qui viennent d'à côté, le chêne, on sait d'où il vient, etc. Donc ça, pour eux, c'est un premier argument. Et l'autre sujet, c'est une qualité spatiale. Alors nous, à l'agence, on appelle ça un confort naturel. C'est une notion sur laquelle on travaille, un confort naturel acoustique, de lumière, de température, et donc qui est une. Alors, dit comme ça, c'est ridicule, mais c'est une succession de procédés low-tech ou de conception bioclimatique qui fait qu'en fait, on profite. On a un confort d'usage naturel sans avoir l'ajout de VMC, de climatisation ou de chauffage à outrance, quoi. Mais c'est pas juste un gain économique, c'est vraiment une expérience différente.
Bien sûr. Alors, l'histoire de vos projets, vous pourriez la formuler ou... Et vos projets emblématiques
Dans l'histoire des projets, il y a une méthode qui, pour nous, est vraiment importante, qui nous permet d'initier chacun des projets. Et tous les projets passent par cette méthode. On est là-dessus très rigoureux et systématique.
Avec des variantes.
Avec des variantes, évidemment, mais qu'on aborde un sujet d'architecture d'intérieur, un projet de la conception d'un bâtiment neuf, une réhabilitation avec une extension, ou un projet de territoire, par exemple, on passe toujours par cet outil qu'on a appelé programme environnement et territoire.
Pour l'acronyme.
Voilà. Et qui nous permet, nous oblige à passer en revue un certain nombre de critères, de caractéristiques du site. Alors, ça va être les entrées bioclimatiques, le climat, la géographie. Ça va être la question des ressources. Qu'est-ce qu'on trouve autour du site de projet?
La question des savoir-faire aussi.
Des savoir-faire associés à ces ressources. La question de l'histoire des savoir-faire ou des techniques constructives ou des styles architecturaux. On cartographie aussi ça, on regarde qu'est-ce qui se fait. Alors, on dit ça parce qu'on intervient un peu partout en France. C'est vrai qu'on n'est pas sur un territoire donné où on connaîtrait par cœur toutes les manières de faire. Et donc, à chaque fois, soit on redécouvre soit on alimente une forme de base de données de projet en projet, parce qu'on a des, on a des zones d'activité un peu concentrées. Peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais l'agence a plusieurs implantations locales, et pas uniquement à Paris. Donc voilà, donc il y a dans l'histoire des projets, ça commence comme ça. Ça commence par cet état des lieux qui nous prend du temps, qui est vraiment quelque chose qui est un peu particulier à l'agence, sur lequel plusieurs personnes peuvent intervenir. Et c'est là qu'on dit un urbaniste peut intervenir sur ce regard sur le territoire, et un architecte d'intérieur aussi. Parce qu'il va avoir d'autres choses, d'autres manières, d'autres matériaux, comment les utiliser. Par exemple, sur un des projets à Zell Rideau, on a découvert qu'il y avait, c'était un haut lieu de la vannerie. Qu'est-ce qu'on fait de la vannerie ? Et ça, voilà, pour nous, c'était un peu inhabituel, la vannerie en construction. A priori, on ne va pas aller très loin. Mais voilà, on a réussi à l'incorporer au projet parce que les architectes d'intérieur aussi ont réfléchi à comment ça pouvait venir créer des cloisons ou des supports intérieurs. Voilà un exemple.
RDAI travaille beaucoup comme ça, dans le monde entier. Donc, pour nos auditeurs, RDAI qui fait les boutiques Hermès. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer des projets ?
Alors, on a le premier projet, premier projet public, premier projet gagné de l'agence, qui était donc à Alixan, dans la Drôme. C'est, pour ceux qui connaissent, c'est la petite bourgade circulaire qui est la bourgade de la gare de Valence TGV. Et qui, en fait, se développe autour de sa gare et son centre-ville. Son centre-ville perd tous ses commerces et la commune, portée par une maire très dynamique, décide d'implanter un restaurant dans sa commune pour que les gens s'y arrêtent. Et donc, c'est notre première vraie expérience de réhabilitation dans un grand volume. Il y a une cour, il y a un extérieur, il y a des façades. Donc pour nous, c'est un grand truc. Et il y a quelque chose qui nous séduit aussi tout particulièrement, c'est on est entre deux rues circulaires et on se dit tiens, ça pourrait être intéressant d'aller peut-être de l'une à l'autre et de recréer de nouveaux parcours. Et puis on voit à l'arrière, il y a une grange en pisé. Et donc, pisé de la terre damée.
Une grange un peu croulante et qui dans le programme est donnée à détruire.
Ouais. Oui, parce que dans le programme, tout est tourné vers la place et voilà. Et donc, en fait, petit à petit, on se dit, non, mais quand même, cette grange, elle est vachement intéressante, elle est même presque plus intéressante que la vieille bâtisse à côté, et on va y faire la salle de restaurant. Et à partir de là, on construit ce projet qui est soumis à des questions de stabilisation de cette grange, justement, qui effectivement s'effondre. On y convoque d'autres matériaux locaux qu'on identifie, et on vient refabriquer cette percée, cette traversée dans le village, à partir de tout ça. Donc ça, c'est la première...
Et c'est ce qui nous fait gagner le projet. C'est qu'on est les seuls à proposer la conservation de cette grange, qui est globalement méprisée par le programme et par également les réponses de nos confrères et consoeurs qui, en fait, proposent tous de la démolir à la demande de la mairie. Et nous, on y voit une plus-value architecturale vraiment extrêmement importante. En plus, elle a une très belle hauteur sous plafond, donc c'est des murs en pisé qui montent à 4,50 m, dont la matière est vraiment... Alors, elle est très abîmée, mais elle a une rugosité. D'ailleurs, même après le chantier, elle va continuer à s'effriter. Enfin, c'est un mur vivant, mais qui a été extrêmement bien reçu après la livraison. Pendant le chantier, ça a été... Enfin, même pendant la conception, voilà, ça n'a pas été si simple à convaincre. C'est vrai qu'au-delà de la mer, ensuite, il a fallu que tout le monde
adhère.
Mmh. Mais finalement, mettre en valeur un matériau historique de la région, qu'on méprise un peu parce que c'est plutôt un matériau relégué à de la construction agricole ou rurale, finalement, les gens en ont été très fiers. Et on a eu d'excellents retours sur cette matérialité très présente et qui, c'est vrai, a fait beaucoup dans le projet. Mmh.
Non, et puis alors pour citer peut-être d'autres projets, peut-être de la même échelle aussi, puisque la force des marchés publics fait que on a les références de l'échelle de projet qu'on a et on commence justement à en sortir un petit peu aussi. Mais donc on a gagné un projet à Mazières de Touraine, même configuration, un autre bistrot rural porté par la mairie.
Avec le maire qui appelle la maire d'Alixan,
ouais, c'est vrai.
Pour vérifier.
Ça, c'est peut-être un conseil aux futurs aux étudiants en archi, soignez bien vos maîtrises d'ouvrage précédentes.
Voilà, et qui effectivement, la maire avec qui on avait un très bon rapport à Alixan, convainc le maire de la viabilité de notre proposition et de notre équipe. Et donc nous sélectionne pour mener ce petit projet.
Et puis aussi une aventure un peu kafkaïenne, c'est que donc il y a une belle longère qui est sur la route dans laquelle était projetée la salle de restaurant et des petites granges derrière toutes croulantes mais qui ouvrent sur la place. Et du coup on se dit on va peut-être inverser le schéma. Et puis là, on se retrouve perdu dans une aventure de subvention qui fait que en fait, ce bâtiment qui s'écroule pourtant, il doit être apparaître sous le nom de réhabilitation pour obtenir des financements. Puis il y a de la géothermie qui arrive en plus. Enfin voilà. Donc du coup, le projet, on le prend, on le retravaille.
De nombreuses fois. Il y a un premier projet d'extension en neuve dont on est très content à l'époque, qui plaît à tout le monde, et qu'en fait, on met à la poubelle et on recommence à zéro, totalement, parce qu'il y a cette histoire de subvention qui débarque, qui dit non, il faut être dans l'emprise de l'existant, il faut que ce soit une réhabilitation, je mets des guillemets, un bâtiment non fondé, croulant, ne peut pas être réhabilité forcément simplement. Et donc, on réimagine un autre volume avec, on fait un jeu de toiture au même emplacement. Mais donc, on a quand même l'impression d'un bâtiment, d'une extension contemporaine, en lieu et place des anciennes. Et se pose la question à nouveau des matériaux. On attend de nous, et les architectes des bâtiments de France, la mairie, attendent de nous qu'on mette de l'ardoise en toiture. C'est le réflexe local. Mais en se renseignant, on voit que il y a plus d'ardoise locale. La grande ardoisière d'Angers Trélazé, magnifique, a fermé en 2014. Et en fait, il n'y a plus quasiment aucune production d'ardoise en France, à part quelques petits producteurs de niche, mais qui sont vraiment dédiés plutôt au patrimoine. Et donc, on se dit, mince, on va pas faire venir de l'ardoise d'Espagne ou pire de Chine, qui est des ardoises qui vont parcourir le monde parce qu'au gré des appels d'offres publics, on va pas contrôler leur provenance, etc. Et donc on dit cherchons une alternative à la mairie. Donc on a cette fameuse carte des ressources qui fait qu'on regarde dans un périmètre de 50 km à la ronde à peu près qu'est-ce qu'on peut trouver comme alternative. Et là on retrouve Bruno Gondrin, un artisan qui fabrique des tavaillons de châtaignier. Donc, ce sont des tuiles en bois. Alors, il a la particularité de les faire de manière totalement artisanale, dans son jardin, avec les châtaigniers de la forêt d'à côté. Et ses seuls outils sont une hache. Et c'est marrant, quoi. Et donc, il fend des rondins à la hache. Donc c'est fendu sur quartier et ça a la particularité d'éviter d'utiliser des scies motorisées et donc de ne pas couper dans les fibres du bois, ce qui confère à ces tuiles de bois une longévité exceptionnelle. Oui. C'est-à-dire que ça peut durer un siècle.
J'avais déjà vu ça.
On peut les retourner au bout de 50 ans pour les faire travailler de l'autre côté. Et donc voilà, le tout avec une empreinte carbone évidemment extraordinairement moins importante qu'une extraction de d'ardoise, et le tout pour un prix similaire. Alors on se dit banco. Et donc voilà, après il y a tout un travail de concertation avec la mairie pour faire accepter ce matériau qui est peu commun dans la région. Et puis il y a la question du bois, le bois en façade, en toiture, c'est quand même quelque chose d'assez peu habituel. Mais qui finit par faire, en tout cas selon nous, l'identité du projet, parce qu'on se retrouve avec cette double couverture en tavaillon qui devient un peu emblématique du projet et qui, là, illustre un peu notre démarche d'aller chercher et une ressource et les savoir-faire locaux associés à la ressource.
Alors, un dernier projet ?
Non, mais c'est un dernier projet qu'on vient de gagner donc dans l'écoquartier de Cachan et qui est pour nous un moment important parce que c'est justement ce moment peut-être du changement d'échelle. Et donc, on le fait avec des grands archis, des monsieur Denis Valode, madame Amonique.
Wouh,
il y a la BNP, il y a Spi Batignolles, etc. Et donc, d'un coup, on fait 22 logements. Et c'est pareil, pour nous, c'était un vrai sujet, un vrai moment de débat au sein de toute l'équipe. C'est comment on change d'échelle tout en conservant tout ce qu'on projette. Et on se nourrit de l'expérience de nos petits projets. Des murs de paille qu'on met en ce moment en chantier pour une épicerie sociale à Issoudun qu'on va mettre sur les bâtiments. On fait du rafraîchissement naturel pour un office du tourisme à Azel Rideau et on va travailler ces bâtiments en ventilation naturelle avec des cheminées solaires qui lui donnent une forme un peu bizarre. Et des briques de terre comprimées issues aussi de nos expériences avec la terre à Vessivière, on n'en a pas parlé mais c'est pas grave. Et donc on va fabriquer des refends de logements justement en briques de terre comprimées Et donc, en fait, un changement d'échelle qui, voilà, qu'on essaye de faire aussi via cet angle-là.
C'est passionnant.
Le petit.
Vous, voilà. Comment imaginez-vous l'avenir ? Une tour en paille à la Défense ? Non, je plaisante.
En tout cas, on n'a pas trop parlé de la paille, mais on est des fervents militants de ce matériau. Moi, je suis formé pro-paille. Et c'est vrai qu'on est vraiment convaincus que c'est le matériau, en tout cas d'isolant d'avenir, puisqu'il provient du rebut d'agriculture, qu'il y en a en quantité sur quasiment tout le territoire français, et qu'on dit qu'avec uniquement 10% de cette paille produite chaque année, on pourrait isoler tous les nouveaux bâtiments faits en France. Oui. Par ailleurs, il y a une excellente isolation thermique associée, un très bon déphasage, une régulation de l'hygrométrie. Enfin, sur le papier, on dit c'est le matériau rêvé, en ressources inépuisables, qui évite d'avoir recours à des industries polluantes, qui évite d'avoir recours à du bois via la laine de bois, ou d'autres procédés qui nécessitent des grosses transformations. Là, on passe de la botte de paille du champ au mur. Il n'y a pas d'intermédiaire, on n'a pas besoin de la transformer, on n'a pas besoin de la rebotteler nécessairement. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très... Alors, quand on parle de low-tech, là, on est vraiment... qui, à l'éventuelle démolition d'un bâtiment, peut aussi se retrouver à la terre. Donc voilà, ça, c'est quelque chose... C'est un des sujets sur lesquels on se bat à l'agence, on essaie de convaincre les maîtres d'ouvrage qui ont toujours une forme de réticence face à un matériau qui surprend un peu. Et là-dedans, alors qu'on parle d'avenir, mais c'est vrai que dans ces axes de recherche, il y a cette question du bois. On travaille évidemment quasiment qu'en bois d'un point de vue structurel. On a fait un gros travail d'apprentissage de la filière bois, notamment parce qu'on est assistant à maîtrise d'ouvrage de la région Grand Est et des 6 parcs naturels régionaux de cette région pour redynamiser la filière bois. Et donc, pendant 2 ans, on a... parcouru les forêts avec les exploitants et rencontré première et deuxième transformation, c'est à savoir les scieurs, les menuisiers, les charpentiers. Voilà, donc on est très... Enfin, c'est un sujet qui nous tient à cœur, mais ce qu'on a découvert durant tout ce travail, c'est qu'il fallait préserver cette ressource. C'est que c'est une ressource sur laquelle il y a de plus en plus de pression. Et donc, on se demande aujourd'hui, oui, on ne veut utiliser que ça, enfin, en tout cas, d'un point de vue structurel, pas de béton, pas d'acier. Par contre, utilisons-en le moins possible. Donc, un des axes de recherche, c'est comment on minimise les quantités de bois qu'on utilise sur un projet. Donc ça, en tout cas, à l'avenir, ça fait partie des choses qu'on pousse. Après, sur les questions d'agence, par exemple, je pense qu'on a envie de se développer, de grossir un peu pour pouvoir aussi accueillir de nouvelles spécialités. Il y a vraiment cette question de la pluridisciplinarité qui est très importante à l'agence. Donc des architectes qui vont être spécialistes de tel ou tel matériau, un profil de chercheur, un économiste, qui vont permettre de venir enrichir notre pratique par des regards différents.
Et puis ce changement d'échelle aussi, pour pouvoir faire la démonstration que la question d'une architecture écologique, c'est pas que l'apanage d'un maître d'ouvrage public qui a les moyens de faire son petit équipement bien quoi.
Oui, ce serait bien que la promotion s'en empare.
C'est ça, et donc on est tout à fait ouvert à des discussions.
Voilà, mais peut-être aussi qu'ils vont être contraints de changer.
Oui, mais tant que c'est perçu sous l'angle de la contrainte, il y a toujours des échappatoires à un moment ou à un autre.
Ouais.
Quand c'est vraiment incarné, quand ils y croient vraiment, quand tout le monde y croit vraiment, les engagements sont différents. Si c'est perçu comme étant le petit plus qu'on pourrait se faire sauter à la moindre, on le voit sur certains projets, ça finit toujours par sauter.
La conviction doit être ailleurs. Quoi.
Ouais, cette recherche aussi de projets atypiques. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du tout de tous les projets, mais on a des projets bizarres à l'agence aussi.
Je crois qu'il y a un château sur l'île de...
Une étude de faisabilité pour le château d'If au large de Marseille. Mais on a aussi, par exemple, des fermes urbaines souterraines à Paris.
On en est à nos 30 000 mètres carrés, pour parler gros chiffres, de fermes urbaines souterraines dans des anciens parkings, plateformes de la drogue de Paris, oui, qu'on transforme donc en champignonnière, en académie de sabre laser prochainement.
De sabre laser ?
Oui, de sabre laser, c'est complètement fou. Non, mais en fait, on essaye de. Voilà, on travaille sur de nouveaux programmes pour occuper ces espaces de la capitale parisienne, puisque c'est ceux qu'on nous a laissés.
Entre les Jedi et les champignons, c'est ça.
Mais c'est ça, voilà. Mais c'est vrai qu'en tout cas, tous ces projets, on a la particularité d'avoir... Il y a très peu de projets qui se ressemblent. Il y a quelques programmes similaires, mais globalement, on n'est pas du tout spécialisé dans un type de programme. On aime bien les projets un peu atypiques qui viennent nous ouvrir vers de nouvelles manières de réfléchir et qui, vraiment, sincèrement, chaque projet vient nourrir celui d'à côté qui est en train de se faire. Et donc, c'est vrai que cette large palette nous permet d'être assez polyvalent et de c'est ce que l'on disait un peu tout à l'heure sur l'outil en mouvement, c'est qu'en fait on alimente comme ça notre méthode.
Et puis il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est votre valeur ajoutée sur la géographie. Oui. Et je pense à Iris Chervet qui est venue dans le podcast parler de sa démarche, c'est passionnant aussi par rapport au problème de l'eau, etc. Et j'imagine que vous gérez ça naturellement.
Alors, naturellement, oui, mais c'est vrai que ça fait aussi partie des sujets qu'on souhaite renforcer justement sur notre programme Environnement Territoire. Les problématiques de biodiversité, on peut encore mieux faire. Mais non, mais il faut quand même préciser que sur ces projets-là, on est sur des échelles dans lesquelles il n'y a pas de bureau d'études environnement qui nous accompagne, il n'y a pas ces savoir-faire constitués dans des équipes traditionnelles. Tout ça, on le travaille, nous, à l'agence en interne. Je l'insiste aussi là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un cadre de fabrication du projet dans lequel, en général, les problématiques environnementales sont oubliées.
Alors, quels conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui ?
C'est vrai que nous, on se sent de la même famille que les agriculteurs bio qui réinvestissent les champs, de ces gens qui refont de la mode, de la mode autrement. Et donc, en fait, d'un engagement un peu général qui peine quand même à émerger dans des pratiques bien instituées. Du coup, peut-être que le conseil aux étudiants, ça serait de poursuivre cet engagement. Qu'ils ont peut-être commencé au lycée, qu'ils ont dans leur vie privée, et de le transmettre dans leur travail, et donc de pas forcément s'engager sur un CDI pour faire des toilettes d'une tour à la Défense, à répétition, mais d'essayer de porter cet engagement concrètement dans leur projet.
Voilà. Ouais, clairement. Non. Aligner ses convictions personnelles avec, avec la force de travail, le temps de travail, toute l'énergie que tous ces étudiants vont mettre... dans leur ouvrage. Et ça, c'est vraiment... en tout cas, nous, on pense que pour changer les choses, c'est par là qu'il faut commencer.
Il n'y a pas de raison que l'énergie qu'on avait dans les études soit brisée dès lors qu'on arrive sur le monde du travail et dans ce monde de la construction, comme on l'a vu dans pas mal d'articles récemment.
Oui. Puis après, je pense que de toute façon, c'est un chemin obligatoire qu'il faut gérer. Un mot de la fin.
Merci déjà de nous avoir reçus. C'est vrai qu'on est, vous disiez, d'une promotion des albums des jeunes architectes et paysagistes 2020 qui est un peu une promo sacrifiée à l'hôtel du Covid et à l'hôtel de tout ça. On les a vraiment vus en vrai pour la deuxième fois à Bordeaux, là, il y a une semaine. Et c'est vrai qu'en fait, dans un contexte comme celui-ci, on espérait que les AJAP soient un moteur de nouveaux projets sur ces sujets-ci, mais en fait, pour l'instant, non, on n'a pas la caisse de résonance attendue. Donc on est très content d'être là pour ça.
Oui, merci beaucoup en tout cas pour votre invitation. C'est vrai que des discussions comme ça, pour nous, c'est vraiment... Déjà, c'est extrêmement intéressant d'avoir cet échange avec vous et de se poser ces questions, les poser entre nous, avec vous. Ça nous fait réfléchir et ça alimente finalement la pratique, ça alimente la manière dont on apprend aussi à communiquer sur les projets, sur la pédagogie à amener au projet. C'est vrai que les AJAP nous amènent aussi vers ça, c'est-à-dire via des conférences, des tables rondes, etc. On est amené à ouvrir notre pratique à un public.
T'es trop gentil. T'es trop gentil avec nous.
Mais en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup d'être venu ici parce qu'on est convaincue qu'il faut arrêter de polluer nos sols, envoyer n'importe quoi dans l'air et consommer à outrance. Hein. C'est vraiment... Et en dehors des discours de récupération politique, mais d'être vraiment dans cette matière qu'il faut travailler, quoi. Donc bravo, vraiment bravo, continuez. Et merci parce que vous êtes aussi plein de sensibilité et on sent qu'il y a une capacité créative forte. Donc continuez. Merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir chers auditeurs, merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, n'oubliez pas l'épisode en anglais et prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.